Obama à la Maison Blanche. Je crois que ça ne marche plus. A-t-il perçu comme un moment de grand changement, une soif de changement?
Au verset 34.
Yes, we can. Le changement est-il possible? Oui, on le peut. Voilà, ça marche. Sur le plan personnel,
voici le témoignage de Jean des malaises parfois, lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites
de neuf,
pour lui demander «
Trois, chaque année, je vois des magazines,
il déclara,
tous les ans,
et sans restriction,
comment réussir son immigration
moi, je ne
au
suis
Québec.
Pas le Messie.
Certains cherchent une
ils
vie
lui
meilleure au-delà
qui
de l'océan Atlantique
et
dans le Nouveau Monde. »
Et il dit, je ne le
sur
suis
le,
pas.
Le plan sportif, cette semaine, nous avons vécu la première victoire
répondit,
de la nouvelle équipe
non.
de Laurent Blanc.
Il lui dit, alors,
et le lendemain, sur RTL,
nous
on parlait déjà d'une nouvelle ère,
à ceux qui nous
d'un envoyer. Nouveau départ pour les Bleus.
Que dis-tu de
alors,
toi-même?
J'ai entendu quelques voix discordantes.
Moi,
François,
dit-il,
tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça,
mais
il faut y croire. Il faut y croire, il faut l'espérer.
Prendez le chemin du Seigneur droit.
Alors, la semaine
comme
dernière,
le
Jean
prophète,
nous a donné une vision haletante, époustouflante de notre Créateur, notre Dieu.
Ils lui
s'est
posèrent
fait
encore cette question.
Du Fils qui est venu
pourquoi
nous
donc
parler,
tu
nous dévoiler,
si tu
nous faire
ni
connaître
le, Messie,
le Père,
ni Eli,
pour que nous puissions
le prophète,
être connus de lui comme ses enfants.
Jean leur
il
répondit,
est venu pour nous donner un nouveau départ.
Je baptise
et ce matin, nous allons voir comment
au milieu
ce nouveau départ
se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Comment il va se concrétiser
après moi.
Alors Jean, l'évangéliste Jean, n'a pas narré une belle histoire légendaire ou philosophique, mais il nous a parlé de
ses
Jésus,
sandales.
Jésus de Nazareth,
cela
un homme historique, né il y a 2000 ans,
de l'autre côté
dans
du
un village
Jourdain,
pas loin de Jérusalem,
Jean baptisé,
qui est aujourd'hui en Cisjordanie.
Le lendemain,
dans notre texte ce matin, l'évangéliste Jean
de lui
veut que
et
nous fassions meilleure connaissance
l'agneau
avec
de Dieu qui enlève le péché du monde.
Jésus. La
c'est
vie
celui
et le ministère de Jésus
à propos
en lui,
duquel j'ai dit après
et bien
moi
documenté
vient
de l'histoire.
Un homme qui m'a précédé
et Jésus n'est pas
car
sans
il existait avant moi.
Alors nous allons
pour
appeler
part,
un de ses témoins à la barre ce matin. Il s'appelle Jean-Baptiste, un homme
mais
bien attesté dans les
le
écrits chrétiens
et
aussi dans les écrits non chrétiens
que je suis venu baptiser.
Jean-Baptiste a le même nom que
Jean
l'auteur de,
rendit
de,
aussi
de cet
ce
évangile.
Témoignage.
Mais les deux personnages sont vraiment des personnages distincts.
L'esprit descendre du ciel comme
alors,
une
si vous jetez un coup d'œil sur le verset 19, vous verrez qu'il s'agit
je
bien
ne le connaissais
d'un
pas.
Témoignage.
Mais celui
voici
qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit
de Jean.
Celui sur
Jean-Baptiste est un marqueur
qui tu verras
historique, une flèche,
et s'arrêter.
Un panneau
c'est
historique
qui baptise
qui indique voilà comment
et moi,
nous devons voir les choses.
J'ai vu.
Et si on triche et on saute jusqu'à la fin du passage, donc c'est 34, on découvre la conclusion de son témoignage. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Donc voilà la grande idée de ce passage. Jean-Baptiste témoigne en faveur de Jésus et est venu persuader que Jésus est le Fils de Dieu. Alors lorsqu'on parle du Fils de Dieu dans la Bible, c'est un terme royal, ça veut dire roi. Dans l'Ancien Testament, le roi était un Fils de Dieu. C'est le même mot pour Messie ou Christ. Ça veut dire un roi qui est oint du Saint-Esprit, qui est scellé du Saint-Esprit, que Dieu a mis son esprit sur lui. Le roi David, par exemple, c'était un Messie, un Christ, en quelque sorte. Alors, mais le problème des rois humains, et les rois dans la Bible aussi, est au moins double. Ils ne sont pas toujours très bons. La France a connu son lot de mauvais rois, si bien que la plupart des gens ne souhaitent pas voir un nouveau roi ou une nouvelle dynastie dans ce pays. En même temps, il y a eu quand même des rois pas si mauvais que ça. Les protestants aiment bien penser que Henri IV n'était pas si mauvais que ça. Mais bon, même s'ils ne sont pas si mauvais, ils ne sont pas très bons non plus. Et surtout, ils meurent, comme Henri IV, assassiné aux mains des Ravaillac. Et ça, c'est un problème, parce qu'après, leurs enfants arrivent au pouvoir, et ils ne suivent pas leur exemple. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé d'un roi qu'il allait envoyer, qu'il allait donner à son peuple, un roi qui allait être juste et bon, un roi qui allait régner éternellement sur son peuple, un roi comme David, mais mille fois meilleur. Un roi comme Salomon, mais mille fois plus sage. Et Jean-Baptiste et Jean, l'évangéliste, l'auteur de ce livre, veulent nous parler de Jésus. C'est lui le personnage principal de ce passage. Et ils veulent que nous voyions que c'est lui. C'est lui dans l'Ancien Testament à parler. Tout se centre en Jésus. Toute l'attente de l'Ancien Testament, des prophètes, se concentre en Jésus. Alors pour ceux qui prennent des notes, et aussi juste pour que ça soit plus clair, plus facile à suivre, donc voilà deux titres pour ce message. Un roi qui change tout et un nouveau départ qui dure. Un roi qui change tout. Jean-Baptiste veut nous persuader que Jésus est le roi de Dieu. Mais quel genre de roi sera-t-il? Alors, on va revenir dans notre passage. On va rejoindre l'action. Donc, il y a une conversation entre Jean-Baptiste et quelques envoyés des autorités religieuses juives de l'époque. Et il veut savoir qui est Jean-Baptiste. C'est un homme, Jean-Baptiste, c'est un homme qui fait un tabac, qui est vraiment la nouvelle star. Tout le monde veut l'entendre. Et il demande, mais toi, qui es-tu? Et instinctivement, Jean comprend que ce qui est derrière cette question, c'est cette idée de Messie. C'est pour ça qu'il dit tout de suite, moi, je ne suis pas le Messie ou le Christ. Ce n'est pas moi qui est le roi de Dieu. Ce n'est pas moi le roi qui devait venir. Ce n'est pas moi ce prophète. Mais ses responsables savent qu'il doit être quand même quelqu'un d'assez important. Il y a ses foules, il est populaire, il y a des vagues. Et surtout, ils sont dans l'expectative. Ces responsables, ils veulent un changement, ils veulent un nouveau départ. Ce qui n'est pas surprenant, parce que le pays est sous l'occupation. Ces responsables ne peuvent pas vraiment gouverner le pays. Il y a les Romains qui tiennent leurs mains. Le pays a bien besoin d'un libérateur, d'un nouveau départ. Et Dieu a promis ce nouveau départ. Alors après un peu, Jean-Baptiste lâche un peu de lest et leur donne une réponse éclairante. Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur, de roi. Alors Jean-Baptiste cite le livre d'Ésaïe, donc un prophète de l'Ancien Testament. Ésaïe était un prophète qui a annoncé la défaite et l'exil en Babylone. Et dans ce passage, Jean-Baptiste cite Ésaïe. Il cite un passage où Dieu dit qu'il va venir pour rassembler son peuple. Et juste quelques versets après cette citation, si on revient dans l'Ancien Testament, on voit quelque chose de très beau. Je cite donc Ésaïe 40, versets 9 à 11. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer une bonne nouvelle ou évangile. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » Et c'est ça le message de Jean-Baptiste. Dieu lui-même vient. Le Dieu qui est un grand roi, qui vient avec son bras souverain, et à la fois il est un berger. Il est là pour rassembler, pour faire du bien à son peuple. C'est en effet une très bonne nouvelle. Ce roi est bon, très bon. Et puisque ce roi est Dieu, ce roi est éternel. Son règne ne finira jamais. Jean était une star qui attirait les foules, mais il n'était pas ivre de son propre succès. Il savait que ce n'était pas lui la vraie star. Cette star était Dieu lui-même. Et Jean dit, il est déjà là. Il n'est personne d'autre que Jésus de Nazareth. C'est fou, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que Jean sait que ce roi berger, ce roi divin, est vraiment cet homme, Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on va le croire sur la base de sa parole seulement? Alors, versets 33 et 34, nous lisons. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste identifie Jésus, il précise bien que lui, personnellement, il ne le connaissait pas. Jean n'avait pas un don spécial, ce n'était pas un mystique qui avait une certaine capacité de savoir les choses. C'est Dieu qui lui a montré que c'était Jésus, par ce signe. Jean ne dit simplement ce que Dieu lui a déjà dit. Et ce que Dieu dit à propos de ce roi est révélateur. Ce roi est celui qui baptise du Saint-Esprit. Encore une fois, Jean, l'évangéliste Jean, venu montrer que Jésus est celui qui va accomplir toute l'attente de l'Ancien Testament. Dans les livres d'Ézéchiel, de Jérémie, on voit bien ce que Dieu va faire quand il vient pour rassembler son peuple. Alors, je vais citer Ézéchiel. Ézéchiel 36. Je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Le roi divin, ce roi berger, n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous donner un nouveau départ dans la vie. Instinctivement, nous voulons ce nouveau départ. Au fond de lui, l'homme sait que sa réalité, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas ce qu'il souhaite pour lui-même. Il se languit de mieux. Et c'est vrai, on cherche par tous les moyens un peu de nouveau dans nos vies pour satisfaire nos cœurs. Mais Dieu ne nous promet pas une nouvelle carrière, un nouveau partenaire, un mari, une femme, une nouvelle maison ou un corps remodelé. Ces choses-là sont des solutions bien humaines, bien passagères, bien superficielles. Dieu veut nous donner un nouveau cœur. Et plus précisément, des cœurs qui trouvent leur joie, leur consolation, leur repos en lui. Des cœurs qui l'aiment et qui se plaisent à suivre ses voies. Alors c'est justement pour ça que nous avons besoin du pardon. C'est pour ça que nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés. Parce que nos cœurs, tout naturellement, se détournent de notre Dieu créateur. Nous ne sommes pas toujours conscients. Et cette rébellion bien ancrée en nous est plus ou moins consciente. Mais au fond de nous, nous voulons vivre à notre manière, sans égard pour lui. Nous voulons gérer nos vies comme bon nous semble, selon nos propres lois et normes. Mais ce coup d'État, si on peut l'appeler ainsi, ne nous a pas libérés. Il nous a éloignés de lui. Il nous a laissés avec un vide, sans lui. Notre vie n'a de manière ultime plus de sens. Nous essayons tant bien que mal de lui donner un sens. Mais sans la réalité de l'éternité, nos vies sont futiles. Nous essayons de chercher notre joie dans notre travail, la consolation dans notre argent, notre estime de soi dans nos carrières, notre sécurité dans nos familles. Mais ces choses, bonnes en elles-mêmes, ne peuvent satisfaire nos cœurs. C'est pour ça que nos cœurs cherchent toujours du nouveau, un autre truc, un truc de plus qui peut vraiment nous satisfaire. Mais le nouveau départ que Dieu nous promet est un pardon profond, un pardon qui touche le cœur. Dieu veut nous changer profondément par son esprit. est venu changer petit à petit au niveau de nos envies et de nos désirs. Il veut que nos cœurs le désirent et prennent plaisir en lui. Ah oui, il n'y a que Dieu qui peut changer nos cœurs obstinés, nos cœurs indépendantistes, ces cœurs qui s'obstinent à chercher de la signification partout ailleurs, sauf en lui, la source de la vie. Et l'évangile de Jean nous annonce que le roi divin, le roi berger, est là. Et c'est lui qui peut nous donner ce nouveau départ. C'est lui qui est venu pour changer nos cœurs. C'est maintenant la deuxième partie. Ce nouveau départ ne va pas nous décevoir non plus. Nous ne serons pas condamnés à en chercher des nouveaux départs tout le temps. Ce nouveau départ est un nouveau départ qui dure. Alors Jean-Baptiste ajoute une nouvelle perspective. Il parle de Jésus d'une autre manière aussi dans ce texte. Alors il n'était pas obligé d'ajouter cet exemple. Je crois que ce qu'on a vu déjà est déjà clair. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi que Dieu a scellé avec son Saint-Esprit. Mais il le fait parce que ce détail est un détail de taille. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors j'imagine qu'en citadin, vous pensez que les agneaux sont plutôt mignons. Alors moi j'ai passé mes vacances à visiter des amis il y a quelques semaines, donc ils ont une petite ferme, et quand vous voyez, donc ils ont des brebis, ils ont une quarantaine de brebis, j'aime bien y aller. Ce sont de bons amis. Et c'est vrai que c'est dépaysant d'aller à la ferme et de voir les brebis, etc. Et puis, c'est sympa. Donc, c'était il y a quelques semaines. Donc, ces agneaux sont assez grands maintenant. Mon ami m'a raconté qu'un jour, ils ont emmené un de ces agneaux à l'abattoir. Ils l'ont mis dans le coffre du break. Devant, il y avait son fils, Jean. Donc, c'est lui qui est à doigt. Il a 5 ans. Au retour, il y avait plein de paquets de viande. Et le petit Jean était bien silencieux. Il ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, mais il savait que son agneau n'y était plus. Dans quelques semaines, les musulmans vont fêter le deuxième festival d'Aïd. Traditionnellement, il y a un animal qui est sacrifié, et souvent c'est un agneau. Ça veut dire que dans quelques semaines, il va y avoir des milliers d'agneaux qui vont être sacrifiés. C'est une affaire sanglante. À l'époque de Jean-Baptiste, c'était la même chose. Il y avait beaucoup d'agneaux qui étaient sacrifiés au temple à Jérusalem, chaque année pour la Pâque. Et Jean-Baptiste pointe son doigt à celui qu'il a désigné comme Dieu, le Dieu berger venu rassembler son peuple, le Dieu du nouveau départ. Et il dit, voici un tel agneau ensanglanté. C'est par la mort de ce roi que vous alliez être libérés. C'est comme ça qu'il va vous libérer. C'est sa mort qui va régler le problème de votre péché, de cette rébellion, de ce coup d'état, de nos cœurs obstinés qui ne cherchent pas à plaire à Dieu. Quand Jean-Baptiste parle de l'agneau de Dieu, ça se peut qu'il fasse référence au passage dans Ésaïe 53, donc quelques versets plus tard après les autres citations, où il y a un agneau qui est emmené à l'abattoir. Je cite, « Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis mouette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Jean-Baptiste annonce que Dieu peut changer nos cœurs et nous donner un nouveau départ parce que son roi, le roi qui est Dieu lui-même et en même temps pleinement homme, Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il sera un sacrifice ensanglanté. Ce sacrifice remplacera tout besoin de sacrifice animalier à l'avenir. Il mettra fin à tout ça parce que lui va être le sacrifice parfait. Le sacrifice qui va vraiment apaiser une fois pour toutes la colère de Dieu. Un sacrifice qui va suffire pleinement pour notre pardon. Alors ça peut sembler une façon curieuse d'apporter le changement. Comme les responsables religieux de l'époque, peut-être on aimerait mieux avoir un grand leader politique pour pacifier le monde, pour pacifier peut-être Afghanistan ou le Pays Basque, ou je ne sais pas quoi, les conflits du monde. Comme les responsables économiques, peut-être on aimerait mieux avoir un grand économiste qui peut peut-être dire comment gérer les finances du monde et répartir les ressources de manière équitable. Mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et Jean veut que nous croyions en Jésus, le Fils de Dieu, car c'est lui qui peut nous changer intérieurement. Il peut nous laver, nous pardonner, nous réconcilier à Dieu. Il peut changer nos cœurs pour que nous ayons envie d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Il peut le faire parce qu'il est notre sacrifice parfait. Il règle le problème de notre rébellion, de notre dette, de la colère de Dieu. Et quand cette dette est réglée, si quelqu'un accepte ce sacrifice, accepte le pardon que Dieu donne, cela veut dire que Dieu n'a plus rien contre lui. Et ainsi, Dieu peut venir et vivre en lui. Il peut mettre son esprit en nous. Il peut petit à petit changer nos cœurs, nos désirs, nos envies, pour que notre joie soit entièrement en lui, pour que notre vie débute à nouveau en lui. Alors, si vous n'avez pas encore fait ce pas-là, si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, votre confiance en lui, ce passage nous appelle à nous préparer pour la venue de Dieu. Le témoignage de Jean-Baptiste retentit encore aujourd'hui. Dieu vient. Il nous appelle à ne pas nous contenter de solutions humaines bien passagères, mais de voir l'ampleur de notre besoin, l'ampleur du vrai problème. Mais il ne nous laisse pas là. Il nous invite à venir humblement au pied de celui qui est Dieu, qui est notre roi, qui est notre créateur. Il nous invite à venir au pied de Jésus et d'implorer son pardon. Lui demander de nous donner un nouveau départ. Il peut et il veut le faire. Il veut nous donner gratuitement, comme un cadeau, ce nouveau départ. C'est un cadeau qui nous a déjà acheté à la croix. Toutes les conditions pour ce cadeau sont déjà réunies et remplies. Il nous invite à le lui demander. Alors ça se trouve qu'il y a à la bibliothèque rouge, là au fond de la salle, un livre qui s'appelle « Nouveau départ », qui parle un peu plus amplement de ces choses. Donc si vous avez des questions, vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, et puis vous voulez aller un peu plus loin, c'est un livre que vous pourriez peut-être emprunter pour la semaine. Voilà, ça s'appelle « Nouveau départ ». Mais j'imagine que beaucoup d'entre nous ce matin avons déjà mis notre foi en Jésus. Cette foi est déjà une réalité, peut-être une foi qui est parfois balbutiante, mais elle est là. Le témoignage de Jean-Baptiste retentit encore, et il nous invite à renouveler notre foi. Par moments, on peut avoir l'impression que nous avons besoin d'un nouveau départ. Parfois, on peut douter de l'efficacité de ce changement que Dieu a opéré dans nos cœurs et qu'il est en train d'opérer dans nos cœurs. Mais notre nouveau départ n'est pas simplement un moment au passé. Peut-être on peut penser à le moment où on s'est converti. Non, ce n'est pas simplement un moment dans notre passé. C'est Jésus, la personne de Jésus, qui est notre nouveau départ. Nous vivons ce nouveau départ en revenant sans cesse à lui, au pied de la croix. Jean-Baptiste nous invite ce matin à élever nos yeux vers Jésus. Et à voir à quel point il est Dieu, ce roi berger, et à quel point il est notre sauveur. Je nous invite peut-être à passer un moment chaque jour cette semaine, le matin, le soir, peu importe, derrière le volant, devant la glace, dans la RER ou sous la douche, à simplement remercier Dieu de ce qu'il est venu. De ce qu'il a donné Jésus, son fils, comme un agneau, comme un sacrifice parfait. Remercions-le de ce que, grâce à Jésus, nous sommes lavés, purifiés, pardonnés, aimés, et que ces choses sont permanentes. Non pas parce que nous sommes toujours fidèles, loin de là, mais parce que son sacrifice est suffisant à tout jamais. Et au fur et à mesure que ces réalités s'ancrent dans nos cœurs, Dieu, par son esprit, sera en train d'incliner nos cœurs pour que nous ayons envie de l'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je vous invite à la prière. Prions. Merci, notre Père, de ce que tu nous as donné, Jésus, comme roi, comme berger. Merci pour sa mission de rassembler un peuple. Merci aussi pour ce nouveau départ, pour l'esprit qui nous donne. Père, nous étions incapables de t'aimer. Nous étions loin de toi, hostiles, rebelles. Nos cœurs ne voulaient pas t'aimer, ne voulaient pas suivre tes voies. Nous étions incapables de te plaire. Mais dans ta bonté, tu nous as donné un agneau, Jésus, qui a payé le prix pour nos fautes, qui nous a donné, qui nous a gagné, qui nous a acheté ce pardon complet, permanent, ce qui te permet de vivre dans nos cœurs. Et Père, nous voulons te demander de changer nos cœurs, de les changer petit à petit cette semaine. Aide-nous à nous rappeler ces réalités, ce que tu as fait. Et puis ta parole, par ton esprit, incline nos cœurs cette semaine pour que nous ayons envie de t'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.